Bonjour à toutes et à tous. La Gironde est replongée dans le cauchemar des incendies.
Le mardi 12 juillet, au milieu de l'après-midi, un incendie démarrait à Landiras, plus exactement sur la D115 à côté du lac de Troupin. Ce feu qui a ravagé plus de 13 600 hectares de forêt annonçait un été brûlant en Gironde, car dans le même moment, la forêt brûlait à la teste de bûche, où on décompte plus de 20 800 hectares touchés par les flammes, avec son lot de maisons ravagées par le feu et des milliers de personnes déplacées de leur foyer. Cet été fut traumatique. Le réchauffement climatique a favorisé des dizaines de départs de feu en brasiers immenses. La forêt a brûlé sur tout le territoire girondin jusqu'à la semaine dernière. La pluie se fait attendre pour que cet épisode cesse. Alors que les pompiers s'affairaient à éteindre la forêt, de nombreuses personnes se sont posé la question « Mais qui a mis le feu et pourquoi ?» Durant tout l'été, nous avons entendu dans les médias des spécialistes en tout genre nous faire le portrait psychologique d'une personne mentalement dérangée. On ne va pas faire la liste de ces portraits psychologiques des pyromanes, on va plutôt revenir avec Marie Desmarty sur sa thèse de doctorat publiée en 2012 aux éditions Anacharsis et rééditée en 2022, intitulée « Une chasse au pouvoir, chronique politique d'un petit village de France ». Cette étude se passe entre Landiras et Aurignes, dans un village qui sera nommé Olignac, pour en préserver l'anonymat des personnes qui se sont confiées aux chercheurs. Bonjour Marie Desmarty, est-ce que vous pouvez nous rappeler en tout cas les résultats de votre enquête donc, qui était intitulée « Une chasse au pouvoir, chronique politique du petit village en France », peut-être à l'endroit des incendies ?
Alors oui, tout à fait. Donc j'ai fait cette enquête au début des années 2000, alors que dans ce petit village que j'appelle Olignac dans mon livre, il y avait un climat social très pesant qui se manifestait notamment par des incendies criminels. À l'occasion d'un renouvellement du conseil municipal qui était très contesté et qui a posé de nombreuses questions sur place. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une enquête poussée sur le climat social et historique de ce petit village et que je me suis rendu compte qu'en fait, localement, dans les Landes, l'incendie avait souvent été utilisé comme moyen de contestation sociale. Mais en fait, il ne s'agit pas que des Landes, puisqu'il y a aussi des chercheurs qui ont eu les mêmes résultats, par exemple en Bavière ou à différentes époques historiques. Donc en fait, si vous voulez, l'incendie, c'est multifactoriel, évidemment. C'est le fruit d'un contexte, souvent, et qui peut avoir notamment des racines sociales. Donc dans le petit village d'Olignac sur lequel je travaillais, il se trouve que en fait, ces incendies, c'était une façon pour une partie de la population qui ne dispose pas de moyens idéaux ou reconnus pour faire part de leur contestation, de leur mécontentement, d'avoir un impact en fait sur la vie locale et sur le jeu politique, notamment, essentiellement.
Concrètement, dans votre étude, il y a des palombières qui brûlent et plusieurs palombières. Ça nous dit quoi, ces feux, quand on fait une étude d'ethnologie Alors, on va le rappeler, c'est un territoire entre Aurignes et Landiras, parce que si on lit bien le livre, on arrive à voir où est-ce que c'est. Et puis, le départ des feux de Landiras, c'est à cet endroit-là. Donc, ça nous dit quoi de mettre le feu, notamment à l'époque, dans les palombières ?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire à ce sujet. En ce qui concerne les palombières, on peut dire déjà que c'est un objet symbolique parce que c'est des cabanes donc, pour chasser qui sont utilisées par les chasseurs, mais qui sont en général positionnés sur des terrains de propriétaires terriens. Donc, en fait, ce qu'on dit quand on brûle une palombière, c'est qu'on s'en prend à la fois aux propriétaires de cette terre et à la personne qui utilise cette ballombière. Et en fait, en l'occurrence, il s'agissait de quelqu'un qui s'était mis au service de la nouvelle élue municipale qui était elle-même la propriétaire du terrain. Et donc, en fait, il s'agit donc de faire passer le message qu'en fait, on n'est pas d'accord avec la nouvelle élection. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai interprété, évidemment, hein, mais c'est le fruit d'une longue enquête. Et donc, il s'agit de faire passer le message qu'on n'est pas d'accord avec cette nouvelle élection, qu'on n'est pas d'accord avec ces nouveaux rapports de force, mais c'est aussi, surtout, le signe de l'impuissance à faire passer ce message autrement. Et ça, donc, c'est quelque chose qui est revenu de façon régulière dans l'histoire des Landes, à commencer, par exemple, avec des nombreux incendies criminels qui avaient eu lieu dès les années 1858, au moment où, en fait, la loi d'assainissement des Landes a été passée en 1857, et où, en fait, les bergers qui utilisaient les communaux pour faire paître leurs brebis ont été chassés de ces terrains par des propriétaires terriens qui les ont ensemencés en pin. Et en fait, à ce moment-là, si vous voulez, ces bergers, la seule chose qu'ils pouvaient faire pour contester cette loi qui les privait de leurs moyens de subsistance, bah, c'était de mettre le feu au semis. Et donc là, il y a eu des énormes incendies qui étaient effectivement criminels à l'époque. Et ce sont des choses, si vous voulez, qu'on retrouve périodiquement dans l'histoire des Landes, et de telle sorte que, en fait, on peut considérer vraiment que l'incendie est une façon de faire part de sa contestation. Et que déjà en 1858, dans le registre de délibération du conseil municipal de Pomponne, qui est dans le Lot-et-Garonne, il était indiqué dans la contrée, le faible opprimé a toujours exercé la vengeance par le feu et l'incendie de forêt. Alors, évidemment, tous les incendies ne sont pas criminels, mais l'idée, c'est que quand même, dans la masse d'incendies qui ravagent les Landes à
Enfin,
période.
on parle de 90 à 95% de raisons criminelles du feu, puisque sur les dernières études, c'est alors criminel, oui, en tout cas, oui, c'est l'homme
Humaine,
qui, ouais,
humaine, oui.
humaine, ouais,
C'est
humaine et
humaine.
des fois criminelle, mais voilà.
C'est ça. Donc 9 fois sur 10, le feu est déclenché par l'homme. La fois qui reste, en général, c'est la foudre. Mais évidemment, dans ces 9 fois sur 10, il y a quand même il y a une bonne part d'accidents. Mais il y a aussi ces incendies qui sont le fait d'incendiaires qui veulent nuire ou faire passer un message. Enfin, et dans ces cas-là, on peut considérer dans certains cas, c'est un acte politique.
Alors nous, on se pose aussi cette question-là parce que c'est cet endroit aussi qui nous intéresse à la Clé des Ondes. C'est la raison sociale de la contestation et le silence qui est lié à ça. Est-ce que c'est parce qu'on ne connaît pas l'histoire des Landes et en fait de ces événements qui étaient de mettre le feu par contestation ou on pense que c'est plus du tout d'actualité?
C'est la même chose, si vous voulez, que ce que j'ai observé au cours de mon enquête. Les personnes qui sont à l'origine de ces incendies criminels, c'est typiquement, et c'est pour ça qu'ils recourent à ce genre de moyens, sont des personnes qui n'ont pas accès à d'autres moyens de s'exprimer. Et donc, en fait, ils sont invisibilisés. Donc, moi, quand j'ai fait mon enquête dans ce village, je me suis rendu compte très vite que j'avais été accaparée par la partie. Si vous voulez, dominante du conseil municipal, de la population locale, et typiquement par les propriétaires terriens qui étaient à la tête du village à l'époque, et que les gens qui créaient en fait une ambiance de peur dans le village, eh bien, je n'y avais pas accès en fait, parce que d'abord j'étais empêchée par ma propre peur, mais surtout parce qu'ils ne voulaient pas me parler. Et c'est une question d'habitude, si vous voulez. Ils n'ont pas les moyens à disposition pour exprimer leur contestation selon les règles du jeu. Et donc, ils n'ont pas non plus accès aux médias, etc. Donc, ce n'est pas étonnant que cet aspect de l'interprétation des incendies n'apparaisse pas du tout dans les médias, parce qu'en fait, déjà, pour que ça apparaisse, il faudrait qu'on ait des témoignages, qu'on puisse avoir accès aux personnes qui sont concernées. Et en fait, ces personnes, typiquement, elles ne parlent pas. Elles sont effectivement enfermées dans le silence. En revanche, les personnes qu'on entend, c'est effectivement ces propriétaires terriens qui, eux, n'ont pas tellement envie d'aller présenter, je pense, ou n'en ont pas forcément conscience aussi, les causes.
On sait que sur l'incendie de l'Andiras, il y a au moins deux procureurs, des dizaines de policiers qui mènent l'enquête. Pour l'instant, il n'y a pas de piste. Est-ce que c'est ce silence que vous avez étudié qui permet de pas faire avancer l'enquête? Ou est-ce qu'il y a un silence organisé entre les gens dans ces territoires, comme on peut voir ailleurs, par exemple en Corse?
Alors bon, encore une fois, je ne veux pas m'avancer sur les causes des incendies de l'Andiras de cette année, parce que ça, on peut pas préjuger de ce qui s'est passé pour l'instant. Mais effectivement, localement, il y a effectivement une sorte d'omerta. En fait, c'est comme ça qu'on me l'a présenté moi quand je faisais mon enquête, dans le sens où plus ou moins tout le monde a intérêt à ce que le silence. Et donc on ne parle pas de ce que font les voisins parce qu'on a peur que les voisins parlent de ce qu'on fait soi-même dans ce cas-là. Donc typiquement aussi dans le village que j'ai étudié, les incendies qui étaient au départ de mon enquête, c'est donc trois incendies de Palombia, localement les gens disaient ouais, on sait qui c'est, on a des fortes présomption, mais personne ne prononçait le nom, jamais, et puis personne n'allait à témoigner au commissariat. Et puis aussi, alors ça c'est encore la cerise sur le gâteau, ce qu'on disait localement, c'était que de toute façon, même si on était allé au commissariat, il ne se serait rien passé parce que la personne en question était protégée. Bon, ça, évidemment, ce sont des choses que je n'ai pas pu vérifier, mais en fait, ce qui m'intéressait, moi, c'était pas forcément d'aller vérifier, c'était que, en fait, ce soit ce que les gens disaient localement, parce que c'est le signe d'une ambiance qui est qui, effectivement, si personne ne va parler aux enquêteurs, ça risque pas d'aboutir, en tous les cas.
Merci Marie Desmarty. Donc tu as écrit en 2012 Une chasse au pouvoir, chronique politique d'un petit village de France aux éditions Anacharsis. Il y a une réédition en 2022. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions.
Merci à toi.